Je suis une fanfreluche, un petit chien en peluche. Je suis une fleur en pot, je suis un bibelot. Je suis un bilboquet, rien qu'un petit joueur. Je suis la femme. Je ne pense pas avec ma tête qui sert à la décoration. Je n'ai pas d'âme, je suis comme une bête. D'abord, j'ai les cheveux trop longs. Mes ongles, c'est pas pour griffer, c'est pour y mettre du vernis. L'oreille, c'est pas pour écouter. Pour les connaisseurs, c'est un fruit. Je suis une confiture. Je suis une pâture. Je suis un liseron. Je suis un édredon. Je suis une poupée et je suis un gibier. Je suis la femme. Si j'ai un nez, si j'ai deux pieds, comme si j'étais un être humain, c'est pour ne pas désorienter. Si j'ai deux yeux, si j'ai deux mains, c'est seulement pour faire illusion que l'homme soit pas dépaysé. C'est une bonne imitation. On pourrait presque s'y tromper. Je suis un accoudoir. Je suis un reposoir. Un monstre familier. Une puce dressée. Poète, prends ta lyre. Tu pourrais presque dire qu'il ne me manque que la parole.
Le gars, il arrive à un certain moment où il fait 18 ans, il voit autour de lui. Il regarde des gens avec des voitures, il regarde des gens avec des beaux habits, des gens qui se permettent des sorties en discothèque, des gens qui se permettent des restaurants. Des gens. Le gars, il est là, il sent inconnu à ce monde-là. Il dit, tiens, comment il faut faire pour accéder à ce monde-là? Pourquoi certaines catégories peuvent se permettre et l'autre non? Ce qui veut dire que vol, agression, tout ça, c'est permis pour y arriver dans cette jungle. Tu commences à prendre goût à l'argent, tu prends goût, tu te dis ça y est, je commence à faire partie du monde actif. Tu commences à te permettre des sorties, les filles s'intéressent à toi, tu roules en belle voiture, tu es respecté par les gens. Ça y est, tu commences à goûter ce que tu vois à la télé, les séries, là, personne vit comme eux. Maintenant que je suis ici, que je réalise, il n'y a personne qui vit comme eux. C'est inimaginable. Parce que franchement, on commence à voir clair, on commence à voir très très clair. Une fois qu'on est ici, on a le temps de réfléchir, on a le temps de penser. C'est comme un circuit de voiture. Vous ne pensez qu'à doubler. Vous êtes dans le circuit, vous êtes au volant de votre voiture, vous ne pensez qu'à doubler, avoir la première place. Ça va du 200 à l'heure, vous n'avez pas le temps de voir ce qui se passe autour. Nous, c'est quoi? Nous, c'est la voiture qu'on a pris du circuit pour un mauvais fonctionnement ou bien pour un tête-à-queue qu'on a fait de trop. On nous a sorti du circuit et on est là. Et on voit les voitures tourner comme des fous. On a le temps de réfléchir. On se dit, oh, on était là-dedans, nous. On était là en train de courir comme des fous. Après quoi? Après l'argent. On voit la société, comment elle marche. On voit la justice, comment elle marche. Franchement, il n'y a aucun espoir. Il n'y a aucun espoir. À chaque cause, il y a un effet. Et chaque effet, il y a une cause. Le fait d'être criminel, c'est qu'il y a, vraiment un déclic qui se fait. Et ce déclic, si eux arrivent à essayer de se donner la peine de le comprendre, franchement, la société, elle tournera mieux.
Voilà un extrait du film La raison du plus fort, un film de Patrick Jean, pour commencer ce plateau des oreilles loin du front. Pourquoi cet extrait? Justement parce qu'on reçoit aujourd'hui Patrick Jean et on est très content. Un cinéaste belge, mais surtout un cinéaste sensible aux questions sociales et politiques. Et c'est un peu ça le plus étonnant. Alors on se félicite d'avoir réussi à trouver un membre de cette espèce en voie de disparition. C'est un peu comme le thon rouge, sauf que nous ne sommes pas dans un aquarium, mais dans un studio de radio. Sauf que Patrick Jean n'est pas un poisson, mais un homme. Il est d'ailleurs devant nous, en vrai, on peut presque le toucher. Et surtout, lui poser une première question. Comment, justement, on arrive à ce type de cinéma?
Oh là là, ça, c'est la première question. Comment on arrive à ce type de... Alors, est-ce que la question est pourquoi on a envie de faire ce type de cinéma?
La question, c'est d'où on parle, d'où on fait des films.
Ah, d'où on parle, c'est une question intéressante. Alors moi, je parle de mon rapport de domination. J'ai l'habitude de dire que je suis un hyper-dominant, puisque je suis un homme, ce qui, dans notre société, déjà me place en position de domination. Je suis blanc. J'appartiens, même si je n'y suis pas né, à une classe sociale plutôt favorisée et instruite, dans un pays très riche. Je suis hétérosexuel, je ne suis pas obèse, je ne suis pas handicapé, j'ai 40 ans. Ce qui, quand on regarde les publicités à la télévision, est l'âge idéal pour un homme. Pour une femme, c'est beaucoup plus jeune. Donc, tous ces éléments qui sont toutes sortes de déterminismes me placent de manière injuste, parce que je n'ai pas mérité d'être né homme et blanc, par exemple, me placent à chaque fois dans une situation, dans un rapport de domination sur le plan sociologique. Et moi, c'est ce que j'analyse. Ce n'était pas mon programme. Hein, je ne me suis pas dit, je vais faire des films pour faire ça. Je me rends compte a posteriori que tous mes films parlent de ça. Et partent sans doute d'un sentiment de culpabilité, voire de honte.
Et alors, et d'où vous venez, votre parcours à vous, familial
Oh, il n'est pas très intéressant. Rien de spécial. Je viens d'une famille plutôt populaire, mais avec une mère qui avait déjà gravi une marche, puisqu'elle avait fait des études artistiques. Elle était chanteuse lyrique. Dans une région qui est le Borinage, où j'ai fait mon premier film, qui est une région pauvrissime, une des plus pauvres d'Europe, en pleine détresse, en pleine déroute. Et puis voilà, puis j'ai fait les études. J'ai eu cette main tendue à un certain moment dans ma vie qui a fait que j'ai pu sortir d'un déterminisme social et qui a fait que voilà, genre, j'ai étudié d'abord au conservatoire chez les comédiens et puis j'ai étudié la philologie et puis j'ai étudié dans une école de cinéma. Et puis voilà, mais j'étais pas du tout destiné à faire des films documentaires. Moi, j'ai jamais voulu faire des films documentaires. J'ai fait l'école de cinéma pour faire de la fiction, et c'est tout à fait par hasard qu'en sortant, j'ai fait un premier court-métrage documentaire comme ça, qui est devenu mon premier film plus long. Et puis du coup, j'ai fait un deuxième, et puis un troisième. Et honnêtement, en y prenant rarement du plaisir, parce que ce sont des films, vous les avez vus, qui ne sont pas vraiment des comédies. Sont les films où je me suis souvent jeté contre les murs, où je me suis beaucoup fait mal à moi-même, sans trop savoir pourquoi parfois. Mais voilà, donc je pense que quand on pose la question à un cinéaste pourquoi il fait ce type de film, on peut la poser de la même manière à un chercheur en sociologie, par exemple, pourquoi il travaille sur telle ou telle thématique. Il y a sans doute des éléments à la fois dans sa biographie, dans sa personnalité, dans sa sensibilité qui va être attiré, et qu'à certains moments il aura des questions qui vont le travailler sans cesse et auxquelles il reviendra malgré lui.
Alors moi, si on m'avait demandé de parier sur vos études, j'aurais parié sociologie dans une école bourdieusienne, parce que, y compris sur le... Bon, il y a évidemment le titre du dernier film qui est le même qu'un des derniers livres de Bourdieu, mais il y a aussi cette question qui est centrale, justement, des formes successives de domination. Vous avez quel rapport à ce type de production du savoir plus institutionnel ?
Ben, c'est-à-dire que quand je prépare un film sur des thématiques comme ça, je commence par les lire. C'est évident que ce serait idiot et inutile de faire l'impasse sur ce qui a déjà été pensé par d'autres et d'essayer de réinventer l'eau chaude. Donc bien sûr, quand je fais un film comme La raison du plus fort, je lis Bourdieu, je lis Loïc Vacan, je lis Laurent Mucchielli, et quand je fais La domination masculine, je lis, oui, j'ai lu Bourdieu, mais c'est pas une de mes références en la matière, mais je lis Françoise Héritier, je lis Simone de Beauvoir, etc., Delphi et autres Butler, bien sûr. Donc je n'ai pas fait d'études dans le domaine, mais... voilà, je suis un étudiant sociologue amateur.
Justement, sur le fait que vous venez du Borinage et que vous avez fait une lettre à Henri Storck, justement, suite au film qu'il a réalisé en 1933 avec Jury Stevens, qui s'appelle Misère au Borinage, qui décrit en fait l'appauvrissement des mineurs suite à une grève très très dure, l'appauvrissement et la
pauvreté en général. Ouais.
Voilà. Donc ça, c'est une filiation quand même dans vos films.
Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Vous savez, c'est très difficile de décrire. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent le faire mieux que moi. Je peux difficilement, moi, décrire mes filiations. Je pense qu'il y en a beaucoup. Il n'y a pas une ou deux personnes qui m'ont influencé particulièrement. C'est plein de gens, en fait. C'est une nuée de gens, de livres, de films où je pêche et qui me donnent à penser. Mais bon, comme à tout le monde. Hein. Bon, la particularité, c'est que moi, j'en fais des films, mais... Je pense qu'on est beaucoup, beaucoup à réfléchir sur les mêmes bases aujourd'hui, heureusement.
Justement, vous, votre manière de faire des films, est-ce que ce n'est pas justement votre manière de penser ou de mettre en pratique votre une sorte de théorie ou une manière pour vous de chercher, notamment avec une matière telle que le film, quoi.
Oui, bah, j'espère que c'est une manière de penser. oui, alors la particularité du cinéma, c'est qu'à la fois, dans ce que je fais, il y a une composante très, très, très sociologique et à la fois une composante... je vais appeler ça pompeusement artistique, dans le sens où il y a un travail sur la forme, évidemment, puisque moi je ne suis pas un scientifique, je n'écris pas des articles ou des thèses, j'essaie de faire du cinéma, et puis surtout l'émotion. Parce qu'évidemment, je suis convaincu que les gens auxquels je m'adresse, qui ne sont pas les gens qui lisent des thèses d'université, ils vont retenir ce que je vais tenter de leur montrer sur le plan politique, sur le plan sociétal, ils vont le retenir s'ils sont touchés, s'ils sont émus. C'est l'émotion qui fait qu'on retient les choses. Si vous racontiez la même chose que je raconte dans mes films, mais de manière beaucoup plus précise, avec des tableaux, des chiffres, etc., les gens pourraient être convaincus au moment où ils verraient le film, où ils verraient la démonstration, mais en sortant de la salle, ils n'auraient rien retenu. Par contre, quand ils voient un visage et qu'ils peuvent y coller une émotion et qu'ils comprennent un phénomène, par exemple, vous avez commencé l'émission avec cet extrait que je n'avais pas entendu depuis longtemps, qui est ce garçon qui est dans la cour de la prison, et qui a une analyse en fait très, très sociologique. Avec ses mots à lui, il fait la même démonstration que font beaucoup de sociologues. Mais quand on le voit lui, qu'on s'attache à un être humain, qu'on s'attache à sa cellule, qu'on s'attache à sa détresse, à sa souffrance, et qu'en plus il apporte cette analyse, qui est une analyse qui est en plus surprenante dans le cliché qu'on peut avoir sur les gens qui sont en prison, et qu'il décrit tout ça de manière aussi intelligente, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont sortir de ça, et puis qui dans les jours suivants continueront à y réfléchir, et peut-être à douter de leur vision du monde. En tout cas, c'est mon ambition.
Et alors justement, si on revient un petit peu sur votre travail, là, vous nous parlez des recherches préalables, de la documentation que vous effectuez. Et ensuite, en regardant votre film, on n'a aucun doute sur le fait que vous passez énormément de temps avec les gens et que au milieu des heures tournées, vous sélectionnez un petit extrait, parce qu'à chaque fois, c'est des extraits qui sont très forts, très percutants. Comment ça se passe justement, ce travail de prise de contact, un travail de terrain comment...
Oui, donc je vous disais que je commence par me plonger dans la littérature sur les sujets que je travaille. Et puis parallèlement à ça, je fais un travail de terrain, mais sans avoir une méthodologie scientifique, parce qu'encore une fois, je ne suis pas là pour écrire un article. Donc là, une méthodologie beaucoup plus émotionnelle, sentimentale, humaine, et avec des rencontres qui se font, qui ne se font pas, des sympathies. Et puis je viens évidemment, je me construis ce faisant un point de vue politique sur ce que j'essaie de raconter, de filmer. Et donc, c'est évident que je vais entrer en résonance avec des gens qui vont m'aider d'abord sur le terrain pendant la préparation à mieux comprendre. Parce que c'est vrai que sur tous ces sujets, très souvent, j'arrivais avec une idée quand même de ce que j'allais dire, mais avec beaucoup de questions encore. Et ce sont les gens que je rencontrais dans les quartiers, par exemple, pour la raison de plus fort, dans certains quartiers de la région d'Amiens, par exemple, il y a des jeunes qui m'ont appris énormément de choses, de la condition sociale, de comment ça fonctionne, l'aspect à la fois sociologique et aussi psychologique. Donc il y a ça, et puis petit à petit, je vais faire des rencontres qui vont me toucher, et puis des gens qui seront peut-être touchés aussi et qui auront envie d'être devant la caméra. Et ça, c'est une chimie très, très, très particulière.
Oui, il y a quelque chose de toujours étonnant, c'est pourquoi les gens acceptent de se laisser filmer ? Enfin, comment est-ce qu'on obtient ça de ces gens-là ? Parce qu'y compris, il y a des moments relativement intimes. Qu'est-ce qui fait que ça marche ?
Très difficile à dire, ça. Il faut bien se dire qu'en ce qui me concerne, ça ne marche pas dans l'immense majorité des cas. Parce que je suis très pudique par rapport à ça. Même plus que pudique, je me sens très très mal. D'ailleurs, j'ai besoin d'un assistant qui m'aide à demander aux gens d'être filmés, par exemple. C'est un truc que j'arrive quasiment pas à faire. Alors, pour la domination masculine, c'était plus facile parce que la thématique était un peu me mettait plus à l'aise, mais pour la raison du plus fort, par exemple, j'étais complètement pétrifié à l'idée de dire aux gens je voudrais vous filmer dans votre misère, parce que c'est ça dont il s'agit. Donc, et pour les enfants du Borinage aussi. Donc c'est très compliqué. Les gens le font parce qu'ils ont une bonne raison. S'ils se retrouvent devant la caméra à un certain moment, c'est qu'ils ont une bonne raison. Et les raisons peuvent être de tous ordres. Alors, avec certains cinéastes, ça peut être pour l'argent. Moi, je n'ai jamais payé quelqu'un pour le faire, mais ça peut être une motivation pour certaines personnes. Pour certaines personnes, ça peut être un moment de gloire à la télévision. En général, ce n'est pas le type de personne que je rencontre. Souvent, ce sont des gens qui, après de longs moments passés avec moi, de longues discussions, ont eu envie d'être partie prenante d'un discours politique. Souvent, c'est ça. Même si parfois, c'était des gens
qui avaient reçu une formation intellectuelle qui ne leur donnait pas beaucoup d'outils, dans Les Enfants du Borinage, par exemple. C'est sûr que je filme à certains moments des gens qui ne savent ni lire ni écrire et n'ont jamais vu une école de leur vie, ou en tout cas pas de près, mais qui néanmoins comprennent qu'on est en train de faire quelque chose ensemble, qu'on est en train de dire quelque chose ensemble. Mais j'essaie d'être honnête avec eux. C'est-à-dire que très souvent, des gens me disent « Mais qu'est-ce que je vais gagner à être dans le film ?» Et systématiquement, je réponds « Rien ». Parce qu'effectivement, ils n'ont rien à gagner, ils ont même parfois des choses à perdre. Donc par exemple, quand je faisais La Raison du plus fort, il y avait beaucoup de jeunes qui ne voulaient pas être filmés parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils étaient terrorisés. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que, je ne parle même pas des adultes, des femmes, des personnes âgées, mais les jeunes hommes, le jeune arabe de banlieue, il vit dans une insécurité terrible et il a peur, il vit dans la peur. Et c'était une des raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes ne voulaient pas être filmés, par exemple, parce qu'ils me disaient « Mais tu te rends compte, si je dis telle et telle chose, si je dénonce telle ou telle situation que tu vois, notamment les rapports à la police, j'ai assisté à un certain nombre de brutalités, de provocations policières que je pouvais vous raconter pendant des soirées entières. Ils me disaient « Mais si tu te rends compte que si je dis ça, ils vont venir, ils vont m'accuser de toutes sortes de choses et puis je vais retourner en prison. J'y suis déjà allé, j'ai un casier, je vais prendre un an, tu sais très bien comment ça se passe. » Et ils avaient raison. De même, on sait très bien que sur le plan politique, au niveau local, il arrive souvent que des gens promettent un logement, un travail, fassent toutes sortes de promesses aux familles pour les faire se tenir tranquilles. Et c'est vrai que beaucoup de jeunes me disaient « Mais je ne peux pas prendre le risque de m'exprimer parce que ça fait des années qu'on me dit que je vais avoir un logement social, ça fait des années qu'on me dit que je vais peut-être avoir un petit boulot à la mairie, je ne veux pas mettre tout ça par terre pour dire des choses, même si je les pense importantes, dans ton film. Donc j'ai envie que tu les dises, mais pas avec moi. »
Parce que j'ai en tête là, une scène du film La Domination Masculine, où on voit deux femmes qui témoignent des violences qu'elles subissent parfois depuis de nombreuses années par leur conjoint ou leur mari. Et cette scène est très étonnante. Quelque part, on aurait envie d'être dans la salle pour voir qu'est-ce que c'est que le dispositif. Comment est-ce qu'on arrive à avoir un témoignage aussi précieux et précis? Est-ce que c'est des gens, par exemple, sur ça, il faut des semaines de discussion avec les gens l'accord se fait tout de suite?
Non. Si vous parlez des scènes où on voit les femmes qui ont même des blessures, qui sont face à un médecin, c'est dans un centre médico-légal. Donc ce sont des femmes qu'on ne peut pas rencontrer avant, parce qu'avant, il ne s'est rien passé. Souvent, elles ont été frappées la veille, elles ont été blessées la veille, et elles arrivent dans un centre médico-légal pour que le médecin fasse un constat pour la justice. Donc, ce qu'il faut, c'est planter, là, attendre. Et puis, de toute façon, tous les jours, il y a des femmes qui arrivent avec ce type de problématiques, et donc, il faut les rencontrer, dire, voilà, on est là, en train de faire un film, pour telle raison, voilà ce qu'on a envie de dire, est-ce que vous accepteriez? Et évidemment, 9 sur 10, voire plus, n'acceptent pas, bien sûr. C'est rare, celles qui acceptent. Certaines acceptent au son, mais sans l'image. Mais le son et l'image, c'est rare, bien sûr. C'est très rare.
Vous gardez des contacts avec les gens qui ont justement participé à vos films? Parce que je me posais cette question parce que ce qui est assez étonnant, c'est que bien sûr que vous donnez la parole à des sans-voix, mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi une parole que vous utilisez, pas dans un sens péjoratif, mais que vous articulez pour créer un discours qui est votre discours. Et est-ce que les gens, a posteriori, sont d'accord d'être intégrés dans ce discours-là? Est-ce que vous avez des retours, soit d'assentiment, soit au contraire de gêne ou d'être...
Alors, c'est très divers, parce que, comme vous l'avez vu dans mes films, il y a beaucoup de personnages. Donc, il y en a certains que je ne vois plus du tout, qui disparaissent complètement. Donc, parfois, même certaines personnes que j'ai voulu revoir, dont j'ai perdu la trace... Quand je faisais le film au Borinage, je tombais souvent sur des gens qui changeaient souvent de domicile puisqu'ils habitaient dans des taudis, etc. Donc parfois on ne les retrouvait plus. Alors pour Les Enfants du Borinage, pour La Raison de plus fort, pour ces films-là, je décrivais de manière très 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 précise mon point de vue. Donc ils savaient exactement dans quel film ils allaient jouer, si vous voulez, et quel serait le point de vue politique du film et comment s'articulerait leur parole. Pour La Domination Masculine, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce qu'il y a même des gens à qui j'ai complètement menti sur le sujet du film et même sur mon positionnement. C'est-à-dire que les masculinistes, par exemple, que j'ai filmés au Canada, au Québec, donc qui sont ces hommes anti-féministes primaires, une sorte de Zemmour Empire et organisé quasiment en parti politique, ces gens-là, je les ai approchés sous une fausse identité en me faisant passer pour l'un d'entre eux, sans quoi je n'aurais même pas pu les rencontrer. Mais ce film-là est un peu une exception.
Alors du coup, c'est peut-être l'occasion d'écouter un extrait donc, de La Domination Masculine. Ça dure quelques minutes et c'est dans un bar, une rencontre, donc ce qu'on appelle le speed dating. Donc c'est un homme qui rencontre une femme et ils ont quelques minutes pour essayer de se séduire. Et là, en quelques instants, vous collectez ce qu'on pourrait appeler un peu les pires clichés des rapports hommes-femmes.
Mon prince charmant serait un homme dynamique, ambitieux, intelligent.
Un gentleman qui te tient à la porte, qui est avenant. C'est quelqu'un qui est assez protecteur.
J'aimais bien le stéréotype de l'ancien temps. C'est-à-dire l'homme qui protège quand même sa famille.
J'aime bien les hommes jaloux, possessifs aussi. Et arrogant aussi, j'aime bien.
Parce qu'un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, déjà comme je vous ai dit, une femme ne sait pas ce qu'elle veut, alors si l'homme ne sait pas ce qu'il veut non plus, on ne va pas s'en sortir. Ouais.
Je sais que j'ai besoin d'un homme qui me domine légèrement.
C'est marrant de dire qu'il y a toujours une femme derrière un grand homme, mais d'une certaine façon, c'est pas faux. Parce que l'homme a besoin de ce regard féminin et tout pour se sentir valorisé, pour avoir confiance en lui, etc. Je pense.
Le rôle de la femme, c'est de se faire jolie, tout ça, sans être superficielle pour autant, mais de garder son rôle de femme, c'est-à-dire que l'homme soit valorisé par rapport à la femme qu'il a à côté de lui, mais tout en ayant quelque chose à dire, mais qui fait comme si elle n'avait rien à dire. Je sais pas comment, j'arrive pas à m'exprimer comme il faut.
Les hommes qui ont un niveau de culture inférieur, parfois ils se sentent dévalorisés, inférieurs. Ils aiment pas que la femme gagne plus d'argent, un meilleur boulot et un meilleur salaire et fasse davantage de choses.
Pour moi, l'homme doit être plus fort et pour faire un équilibre.
Je pense que il vaut mieux que ce soit lui qui gagne plus.
C'est un symbole un petit peu de domination masculine. Bien évidemment que dans l'absolu, ça n'a aucune importance. Mais à ma vision, ça n'a aucune importance. Mais je pense que pour l'homme lui-même, c'est important qu'il se sente valorisé déjà par cette position-là.
Un extrait donc de La domination masculine, un film qui, comme son nom l'indique très bien, traite des rapports hommes-femmes. Et donc, quand on regarde ce film, qu'on tombe sur cette scène et qu'on entend ce qu'on entend et qu'on voit ce qu'on voit, on se dit non, Patrick Jean est malhonnête. Il a sélectionné quelques extraits, les pires qui existent. Ou alors, c'est vraiment vrai et là, c'est triste.
Non, mais c'est triste, c'est sûr. Je peux vous dire que c'est non seulement pas exagéré, mais même un peu sous-évalué. Mais c'est souvent comme ça dans le documentaire. Quand on est dans le réel, on dit souvent que le réel dépasse la fiction, et c'est vrai. On est souvent face à des situations dont on se dit, si on mettait ça dans un film de fiction, n'importe quel scénariste de base dirait, ben non, on peut pas, c'est pas possible, c'est pas crédible, ça ne tient pas debout. Et là, ça tient debout parce que c'est le réel. Quand j'ai fait les repérages dans les speed dating, je suis allé à plusieurs endroits dans Paris où on fait du speed dating, donc où les célibataires se rencontrent pendant 7 fois 7 minutes. Et donc, moi, je faisais pas semblant d'être un célibataire en recherche. Je décrivais exactement pourquoi j'étais là. Mais je parlais, je prenais un tour, et donc je parlais 7 minutes avec quasiment toutes les participantes. Et j'entendais des choses bien pires que ça. La première fois où je suis allé, j'étais... Mais surpris est un vain mot, c'est au-delà de ça. Je me suis dit, mais je suis chez les fous ici. Et puis, quand on réfléchit bien, on se dit que les femmes qui sont là sont des femmes célibataires, souvent dans la trentaine, qui ont déjà vécu en couple, qui généralement n'ont pas d'enfants, sur qui s'exerce une pression sociale très forte pour qu'elles fassent un enfant, parce qu'une femme qui n'a pas d'enfant, c'est une femme qui a raté sa vie, alors qu'un homme qui a raté sa vie, c'est l'homme qui n'a pas la Rolex à 50 ans, comme on dit. Donc il y a une pression très forte sur ces femmes pour qu'elles trouvent vite le prochain compagnon avec qui vite elles feront un enfant. Et il y a évidemment le poids de cette culture patriarcale qui nous dit quand même, qui nous rappelle depuis la naissance jusqu'à la mort, qu'un homme doit être un homme, une femme doit être une femme, et que les comportements doivent être différents, et notamment dans le rapport de séduction. Or, dans un speed dating, les gens sont là pour se vendre un peu. Ils sont dans un rapport quasiment de marketing pour mettre leur qualité en avant, exactement comme quand on passe un entretien pour trouver un boulot. Si on filmait des gens qui passent des entretiens pour trouver un boulot, ils seraient aussi très caricaturaux. Ils diraient tout le temps du bien d'eux, ils cacheraient leurs défauts, bon, ils tourneraient leurs défauts en qualité. Ça pourrait être drôle aussi. C'est un peu la même chose. Et donc, moi, ce que j'entends chez ces femmes, c'est qu'évidemment, il y en a l'une ou l'autre qui tiennent un discours très primaire du type « j'ai besoin d'un homme qui me domine, je préfère avoir un homme qui me domine, je suis faite pour être dominée ». Mais j'entends aussi chez certaines d'entre elles qu'elles sont conscientes du rapport de domination, que presque, on pourrait dire qu'elles le regrettent. Il y en a une d'ailleurs qui dit « je me rends bien compte que c'est un rapport de domination masculine », je n'ai pas soufflé le mot, c'est elle qui l'a employé. Mais qu'en même temps, vu cette situation, vu cette pression sociale, elles ont jeté l'éponge. Et elles se disent « c'est déjà tellement compliqué de trouver un compagnon ». Si en plus je commence à demander un compagnon qui va être pro-féministe, qui va prendre 50% des tâches ménagères, qui va avoir tel comportement, alors là c'est mettre la barre trop haut et c'est même pas la peine d'y penser. Donc je vais déjà intégrer dans ce que je projette de moi ce que je sais du désir de l'homme que je n'ai même pas encore rencontré, qui voudra certainement gagner plus que moi, être plus ceci, plus cela, plus visible socialement, etc. Donc elles ne l'ont pas encore rencontré, mais elles projettent déjà. Donc ça veut dire qu'elles se mettent déjà dans un rapport de soumission. Donc malheureusement, ce n'est pas une caricature, c'est comme ça que fonctionne encore notre société. Est-ce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de femmes de cet âge-là que je connais, que j'ai rencontrées par-ci, par-là, qui ont vu le film et qui me disent « Oh, cette séquence de speed dating, c'est vraiment incroyable, mais ces femmes, elles sont complètement folles, etc. » Et puis on discute. Et puis au cours de la conversation, elles se mettent elles-mêmes exactement dans le même discours. Elles disent, oui, mais quand même, sur ce thème-là, on ne peut pas dire que... oui, moi aussi, j'aime bien d'avoir un type qui est quand même très visible socialement. C'est vrai que dans le rapport, c'est, pour être séduite, j'ai besoin de ça quand même. C'est quand même revenir exactement au même constat, au même pronostic. Donc, on est tous là-dedans. Et quand je dis ça, je pense que moi aussi, je suis là-dedans. Alors, si on veut sortir de ça, je pense que c'est un long travail à faire. C'est le travail d'une vie. Mais malheureusement, tout ça n'est pas de la caricature.
Et alors, est-ce que vous avez renversé le regard? Est-ce que vous avez ces hommes qui viennent dans ce type de rencontre, essayer de voir de leur côté ce que eux ils attendaient? Est-ce que on a quoi comme discours?
Eh bien voilà la différence justement entre le travail du sociologue et du cinéaste. Je n'ai pas eu envie de le faire et je ne l'ai pas fait. Voilà. Et comme je ne suis pas dans un travail scientifique, je n'ai pas de compte à rendre là-dessus. J'avais envie d'entendre ce que disaient les femmes. Alors oui, j'ai bien entendu, parce que j'ai eu quelques discussions comme ça, de manière, mais bon, sans chercher à en rencontrer 50, 60 ou 100 pour me faire une idée. Donc je ne peux pas vous répondre.
Moi, j'avais envie de poser une question sur ce film La domination masculine, parce que j'ai lu que vous vouliez que les spectateurs se disputent en sortant de la salle. Et je voulais savoir si vous aviez eu des réactions du public lors de rencontres et si le but était atteint.
Alors, c'était une boutade, évidemment. Je peux vous dire que, avec moi, non. Là, j'ai fait, je ne sais plus combien de débats, j'ai dû faire 70 débats depuis que le film est en salle. Il est toujours en salle, donc je continue à en faire quasiment tous les jours. Généralement, avec moi, le public est très courtois et s'exprime essentiellement des personnes qui sont plus ou moins d'accord avec moi. Par contre, dès le lendemain, sur Internet, je reçois les insultes. Alors, c'est souvent extrêmement violent, ça se calme un peu, parce que maintenant, il y a 3 mois que le film est sorti, donc il y a plus qu'une quinzaine de salles, donc il y a moins de gens, donc c'est moins l'effervescence. Mais au début, je recevais, via mon blog, des brouettes de messages, d'insultes scatologiques, et c'est allé jusqu'aux menaces physiques. Puisque au Québec, je devais aller pour montrer le film au mois de novembre l'année passée, et il y a eu un certain nombre de menaces qui étaient très 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 explicites et qui ont fait que j'ai annulé le voyage et qui ont fait aussi que la police canadienne a fait une perquisition chez quelqu'un qui s'est retrouvé en prison suite à des armes qu'on a trouvées chez lui. Et ces menaces étaient très 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 explicites et pour des raisons très politiques. Donc on est dans un mouvement idéologique, politique, dont je parlais tout à l'heure, le masculinisme, qui est très peu connu chez nous, qui s'installe de manière durable. Là, depuis un an, ils ont déposé les statuts d'une 60aine d'associations. Et certains d'entre eux peuvent être très violents.
Mais parce qu'on peut peut-être dire deux mots de ce mouvement. En France, il existe l'équivalent qui est SOS Papa. Oui. J'étais assez surpris de voir l'ampleur que ça prenait au Canada. Mais je sais qu'il existe le même type de structure aux États-Unis. Peut-être on peut dire deux mots sur qu'est-ce qui se passe là-bas pour que ça prenne une telle ampleur et qu'est-ce qui nous attend ici même.
Alors en fait, si on veut le voir de manière optimiste, c'est plutôt un bon signe. Dans le sens où, chaque fois qu'il y a eu des progrès en termes d'émancipation sociale, il y a un contre-mouvement qui refuse cette émancipation. Quand il y a eu des mouvements d'émancipation noire américains, c'est une époque où le Ku Klux Klan a recruté énormément de gens. Quand on voit que les femmes,
d'Obama,
voilà, exactement. Quand on voit, quand il y a eu la Révolution française, il y a la contre-révolution, et on pourrait multiplier les exemples. Donc, quand la société petit à petit permet aux femmes de s'intégrer pleinement avec un peu plus de justice, on est encore loin de l'égalité, mais où on commence à voir que les femmes prennent des positions dans la société, il y a une sorte de réaction du système, de défense du système qui lui préfère le statu quo. Et qui va se défendre. Et cette défense du système, eh bien, évidemment, ce sont les tenants des privilèges, les tenants du pouvoir, c'est le groupe dominant, le groupe des hommes, qui, de manière marginale, évidemment, va s'organiser pour lutter contre ça. Alors, quand je dis de manière marginale, je ne devrais peut-être pas tout à fait le dire, parce qu'en réalité, ce que disent ces masculinistes, en gros, c'est une idéologie dominante. Si vous allez au bistrot du coin de la rue et que vous entendez des hommes parler des femmes entre eux, vous allez entendre des horreurs. C'est un peu comme le racisme. Vous avez des racistes qui s'ignorent, des racistes qui se savent racistes mais qui se cachent parce qu'ils ont un peu honte, des gens qui s'affirment, des gens qui vont militer au Front National, et puis au-delà, vous aurez des gens dans des mouvements, des groupuscules d'extrême droite extrêmement physiquement violents. Mais disons que ceux que j'ai filmés à Montréal, ça correspond au Front National. C'est-à-dire que ce sont des gens qui organisent une pensée qui est largement répandue dans la société, mais qui l'organise en discours politique, en action politique, en lobbying politique, en gros, pour le retour des femmes à leur casserole. En gros, c'est ça. Alors, ils se cachent derrière des mouvements de pères, parce que ça, c'est, d'un point de vue marketing, c'est assez satisfaisant. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, ah, voilà des nouveaux papas qui divorcent, mais qui s'intéressent beaucoup à leurs enfants, etc. En réalité, alors, il peut y avoir des hommes qui sont en situation de détresse et qui tombent dans les filets de ces associations. Mais en réalité, moi, je les ai rencontrés encore une fois en me faisant passer pour l'un d'entre eux. Donc, j'ai ce qu'ils m'ont dit devant la caméra, et puis j'ai tout le off, et je peux vous dire que le off, c'est d'un niveau bien supérieur à ce qu'ils m'ont dit devant la caméra en termes de violence, puisque ça va jusqu'à la pédophilie, la défense de la pédophilie. Vous avez un certain nombre de ces hommes qui veulent s'organiser tout simplement pour garder le pouvoir en tant qu'homme, parce qu'ils estiment qu'une société a toujours... Les sociétés, et là ils ont raison, ont toujours été organisées selon un modèle patriarcal, et là ils ont moins raison, et ils trouvent que ça a toujours bien fonctionné et qu'il n'y a pas de raison d'en changer.
Est-ce que c'est connecté à des mouvements, à des mouvements racistes, est-ce que ces hommes défendent aussi une identité blanche, une identité sociale? Est-ce que c'est connecté à ça?
Je ne vais pas vous dire que c'est une pensée d'extrême gauche, évidemment. C'est sûr que généralement, beaucoup d'entre eux sont extrêmement réactionnaires sur tous les autres sujets. Donc, parmi ceux que j'ai rencontrés de près, il y en a quand même quelques-uns. C'est vrai que j'ai souvent senti qu'ils étaient borderline, on va dire, sur le plan du racisme, de l'homophobie, sur le plan des mœurs en général, sur le plan économique, ils sont proches des néoconservateurs américains. Voilà, donc c'est une idéologie clairement de droite, bien sûr.
Alors, l'homme, en très peu de termes, l'homme change son environnement. L'homme adapte son environnement à lui-même et la femme s'adapte à son environnement. Et il faut utiliser ce principe-là pour que la société fonctionne. Il faut permettre à l'homme d'adapter l'environnement et dire aux femmes, écoutez, adaptez-vous à l'environnement qu'on va vous créer. Toute l'évolution sociale qu'on a actuellement dépend des inventions des hommes, pas des femmes.
Maintenant, l'homme aujourd'hui est castré, c'est-à-dire que la femme, en allant chercher le revenu, joue le rôle du mâle, qui est le rôle traditionnel du mâle.
Là, présentement, on est dans une zone de dérapage entier où ce qu'une femme peut décider d'avoir ou pas un enfant. Elle peut décider d'avoir, à l'insu de l'homme, un enfant et de le collecter à la suite.
Le seul modèle masculin acceptable dans cette société, c'est un homme avec des valeurs féminines. On n'a plus le droit d'être un homme.
Donc là, l'homme est perdu. Il sait plus sa place. Il y a des générations sacrifiées qui sont des hommes momounes, tu sais, qui ont peur, et qui se tiennent, qui font le tapis, comme on dit, qui pissent assis.
Madame la ministre vient de sortir, là, la ministre Saint-Pierre vient de sortir, ils ont communiqué. 85% des victimes de violences conjugales sont des femmes. C'est faux. Il y a plus d'hommes victimes de violences conjugales que de femmes.
Mais au niveau de la violence psychologique, ça peut rester dans la tête des années, tandis qu'une claque, ça va faire mal sur le coup, mais après ça...
On parle pas vraiment de viol. Ici, on parle d'abus sexuels, et c'est encore plus pernicieux, parce qu'on met dans la même catégorie ce qui est très grave, comme ce que vous semblez appeler le viol, et quelque chose qui est beaucoup plus anodin, des attouchements ou des choses comme ça. Donc, on arrive à tout rassembler. Alors, dès qu'une femme est dit qu'elle n'est pas d'accord...
Comme là, le pédophile devient le monstre numéro un sur la planète. Là. C'est une façon de détruire l'homme.
Le mouvement féministe et le mouvement gay,
Ce travail main dans la main.
Et dans les deux cas, ce sont des idéologies de mort. De mort de la société et de disparition de la race, évidemment. Parce que les féministes qui veulent pas d'hommes, mais les homosexuels, ça fait pas des familles nombreuses, là.
Je regarde de devoir le dire, mais le féminisme est un crime contre l'humanité.
Exactement comme sous l'Allemagne nazie. Et c'est pas plus subtil non plus que sous l'Allemagne nazie.
C'est-à-dire que les comparaisons avec le régime stalinien et puis le régime fasciste sont évidentes, là. Une intrusion dans la vie privée, la perte complète des droits.
Regardez les démons, ils ont des gros pénis et ils ont des tridents pour démontrer la violence. Et on diabolise le phallus dans nos sociétés. Dans d'autres sociétés, on vénère le phallus. C'est une question de mentalité, c'est une question de grille d'analyse.
Voilà, diabolisons le phallus donc dans Les oreilles loin du front avec Patrick Jean. Donc ça, c'était un extrait de La domination masculine. Justement, on parlait des réactions qu'il y a eu à ce film. Il y en a eu une, la récente, sur un site féministe canadien, Sisyphe.org, où, en fait, elles réagissent, en fait, pas vraiment sur le film, parce qu'elles sont assez... c'est positif sur le film, hein. Sur le fait que vous auriez dit que, en fait, je vais essayer de formuler, vous me corrigez, finalement, les hommes n'ont pas grand-chose à gagner de l'égalité. Et elles reprennent là-dessus en disant... Enfin, voilà, ils ont plus à perdre de privilèges, c'est ça que vous auriez dit, avant d'arriver à l'égalité. Et donc, elle disait, ben non, le féminisme, c'est comme ça qu'on le porte. Vous avez tous à, on a tous à y gagner, quoi. C'est un peu ça l'idée.
D'accord. Ben, oui, c'est une question intéressante, la question des privilèges. Moi, j'essaie de regarder les choses de manière matérialiste, on va dire. Quand on est membre d'un groupe dominant et qu'on bénéficie à ce titre d'un certain nombre de privilèges, la question est... Pourquoi remettre en question ces privilèges, puisque ces privilèges sont après tout tellement confortables? Il faut bien se dire que dans l'histoire, on n'a jamais vu un groupe dominant remettre lui-même en question sa domination. Je pense que dans les rapports entre les hommes et les femmes, il en va ainsi comme dans les autres rapports de domination. Alors, on peut évidemment décider en tant qu'homme, si on a des principes politiques pro-féministes, on peut décider de remettre en question les privilèges. Mais certains privilèges ne peuvent pas être remis en question de manière individuelle. Par exemple, si on parle de la peur de se faire violer ou agresser sexuellement dans un parking souterrain, nous n'avons pas cette peur, nous les hommes, c'est un privilège parmi d'autres. Ce n'est pas le premier qui saute aux yeux, mais voilà un privilège qu'on ne peut pas remettre en question individuellement. Individuellement, on ne peut rien faire. La question des salaires, par exemple, ce qui est un privilège très important, puisque nous les hommes, nous avons statistiquement des salaires toujours plus élevés que les femmes à travail égal, à niveau de formation égal, ce privilège-là, individuellement, on ne peut pas le remettre en question, sauf si on est le patron de l'entreprise, évidemment. Mais si on bénéficie du salaire, on ne peut rien y faire. Après, il y a d'autres privilèges qu'on peut remettre en question. Alors, celui qui saute aux yeux, c'est la question des tâches ménagères et parentales. C'est quelque chose qui pèse très lourd au quotidien, surtout quand il y a des enfants. J'ai une amie sociologue en Belgique qui a calculé il n'y a pas longtemps qu'en France, ça doit être la même chose, le temps que les femmes passent en plus... que les hommes aux tâches ménagères et parentales, ça correspond en moyenne à la durée légale des congés annuels. Ça veut dire que, si on prend le cas de la Belgique, c'est comme si les hommes avaient deux fois plus de congés annuels que les femmes, si on tient compte du temps passé aux tâches ménagères et parentales. Donc c'est vraiment pas négligeable. Alors cette question-là, on peut individuellement, au sein de son couple, si on vit en couple hétérosexuel, la remettre en question. Maintenant, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on est socialisé en tant qu'homme et en tant que femme depuis la naissance. Ça veut dire qu'on est dans un modèle qui crée chez nous des réflexes conditionnés qui vont faire que même si on veut faire ça, on est un peu comme une feuille de papier qu'on plie en deux. On a beau la déplier, le pli reste marqué. Et c'est le travail de toute une vie de déconstruire ce pli. Et même inconsciemment, en tant qu'homme, même si on veut, on va toujours mettre en place des petits systèmes qui vont nous permettre de contourner, de reporter la tâche, par exemple, et puis en se disant, oui, mais entre-temps, il y a peut-être une petite main par hasard qui passera par là et puis qui le fera. Ou bien nous qui essayons d'être tellement habiles de nos mains, tellement adroits, etc., tout à coup, devant une casserole, on va être complètement maladroit. Et évidemment, ce jeu-là, on le joue à deux. Et évidemment, les femmes étant socialisées en tant que femmes, elles vont arriver, elles vont dire, attends, ben, c'est bon, laisse tomber, je vais le faire. Et donc, c'est ce jeu-là qu'on joue ensemble, qu'il faut complètement déconstruire, sans quoi on entretient un rapport qui est complètement inégal et qui sert de modèle aux enfants qui arrivent derrière. Donc voilà. Alors après, Je pense qu'il y a aussi des éléments liés à ces avantages qui sont mécaniques. C'est-à-dire que si on prend une structure de hiérarchie comme une entreprise ou bien un concours d'une grande école, jusqu'à une certaine époque, il n'y avait que des hommes dans l'entreprise ou bien dans le concours de la grande école. Tout à coup, voilà que des femmes viennent se mettre sur l'échelle. Elles commencent à occuper certains barreaux. Eh bien, certains hommes peuvent se dire, après tout, je suis sur cette échelle, et si les femmes n'étaient pas venues se mettre sur les barreaux au-dessus de moi, eh bien, j'occuperais une position qui serait de autant de barreaux supérieurs. Et par exemple, certains hommes peuvent se dire, s'il n'y avait pas eu 10 femmes, 10 filles qui ont pu intégrer cette grande école, si elles n'avaient pas existé, si on ne leur avait pas permis, comme ça se faisait jadis, d'intégrer la grande école, eh bien, moi, comme je suis arrivé derrière et que j'ai été refusé, j'aurais pu intégrer cette grande école. Donc il y a un système mécanique qui est un système de remise en question des privilèges, que les privilégiés n'ont aucun intérêt à remettre en question, évidemment. Et donc, voilà, c'est simplement ce que je dis qui était remis en question par celles qui m'ont écrit cette lettre ouverte. Alors, évidemment, je suis d'accord avec elles pour dire que le jour où on aura aboli ces privilèges, le monde ira mieux. C'est évident qu'on sera dans un monde plus juste et que ce monde sera meilleur pour les femmes et pour les hommes. Par contre, ce que je dis, c'est qu'à l'instant T, les hommes vont continuer consciemment et inconsciemment, à mettre en place un certain nombre de stratégies pour conserver leurs privilèges.
Mais je crois que ce qui les gênait aussi, c'est que, justement, vous, en tant qu'homme, vous êtes un privilégié et que, normalement, vous ne devriez pas remettre en question ces privilèges. Or, vous essayez de le faire à travers ce film. Du coup, elles essayent de trouver une raison à votre film et elles verraient une espèce de bonté, de générosité. Vous feriez ça pour la justice avec un grand J.
Mais bien sûr que derrière, on peut se poser des questions sur le plan moral. Il y a des Blancs qui ont lutté aux côtés des Noirs pour abolir les lois raciales aux États-Unis. Bien entendu, il ne fallait pas attendre que les Blancs se lèvent un jour en se disant « Ah, mais excusez-nous, on s'est trompé, ça fait des siècles qu'on fonctionne comme ça, mais messieurs, mesdames, qui êtes Noirs, ben allez-y, mais prenez une place parce qu'on s'est trompé, c'était pas juste, maintenant on va être juste. » Bien sûr, ça ne fonctionne pas comme ça. Les mouvements d'émancipation, ils étaient Noirs, et parmi eux, il y avait quelques Blancs qui ont lutté à leur côté. Mais ce que je dis simplement, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que demain, les hommes se lèvent en se disant « Excusez-nous, mesdames, on s'est trompé, on abolit les privilèges. » Ça ne marchera pas comme ça. Et après, si je veux être tout à fait honnête, alors bien sûr, oui, j'ai cru comprendre qu'elle disait ce genre de choses par rapport à moi, mais quand on est intellectuel, romancier, essayiste, cinéaste, homme politique, dire publiquement qu'on va remettre, et essayer même de le faire, avec sincérité, qu'on va remettre en question nos privilèges, cela peut nous attribuer de nouveaux privilèges. Parce que tout à coup, regardez, je suis en train de vous parler là, je fais un film qui sort en salle, j'occupe une position qui, sur le plan symbolique, n'est pas si mal. Je suis regardé par un certain nombre de femmes comme un type bien. C'est plutôt confortable. Par contre, maintenant, allez dire au garçon qu'on a entendu qui était dans la prison au début de cette émission, lui qui est sur le bord de la société, parce qu'il n'est pas né avec la bonne tête, le bon nom, la bonne adresse, la bonne couleur de peau, la bonne classe sociale, lui qui est sur le bord de la route, allez lui dire à lui, alors on garde tout, tu restes sur le bord de la route, la structure sociale s'essuie les pieds sur toi, mais on va te demander d'abolir tes privilèges par rapport à ta femme. Ça va être beaucoup plus compliqué de lui dire à lui qu'à moi, moi qui vais en générer d'autres des privilèges ou des avantages. C'est pour ça que les mouvements féministes sont évidemment quasiment toujours des mouvements de gauche, voire d'extrême gauche, parce qu'évidemment, les féministes ont compris depuis très longtemps que cette lutte-là, ça ne pouvait pas être une lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes seulement, mais une lutte pour l'égalité et pour la justice tout court. Parce qu'évidemment, toutes ces luttes sont tricotées entre elles, et on ne peut pas lutter uniquement pour l'égalité entre les hommes et les femmes sans lutter à côté pour une justice sociale, parce que l'un implique l'autre et l'autre implique l'un.
Mais du coup, oui, c'est ça, c'est que c'est étonnant, parce que vous posiez le thème de la domination et c'est aussi le thème de l'oppression, un thème qu'on retrouve à travers tous vos films. Là, justement, vous faites un parallèle entre les femmes. On parle de la question des femmes, mais dans La raison du plus fort, c'est bien la question des pauvres et des riches, donc de la domination par un système capitaliste. Et puis, d'un mur l'autre, c'est la question aussi économique et migratoire.
Bien sûr.
C'est vraiment votre question centrale ou
Je m'en rends compte a posteriori, oui. Encore une fois, ce n'était pas un programme du tout. Mais, et voilà, et le prochain, ce sera sur la prison. Oui, donc oui, bien sûr, je suis toujours là-dedans, malgré moi. Même si chaque fois, je me promets de ne pas y revenir, malgré moi, je commence à travailler sur un projet. Et puis ce projet glisse, et on arrive effectivement à parler de ces questions. Ouais, mais je pense que quand on fait ce métier, on travaille sur des obsessions en général. Parce que si, moi, j'ai travaillé 6 ans sur ce film. On ne peut pas travailler 6 ans sur un film sans être complètement obsédé par ce qu'on fait et par cette pensée-là. Oui.
Mais justement, vous évoquez là, les 6 ans, c'est ça le temps d'un film. Alors, il faut lire tout ça, je vais trouver des financements, tout ça, mais à chaque fois, c'est des périodes de travail aussi longues que ça, sur les 3 expériences.
Non, celui-là est vraiment plus long que les autres. Et dans ces 6 ans, j'ai aussi fait d'un mur l'autre. Donc c'est pas 6 ans à temps plein, évidemment. Je pourrais dire que c'est 2 grosses années à temps plein, mais réparties sur 6 ans.
D'accord. Mais sur le... Je reviens à ce que vous disiez sur le film lui-même. Vous avez beaucoup accompagné ce film. Il y a eu beaucoup de débats. D'ailleurs, on se demande même si finalement ce soir, ce n'est pas la 71e fois ou 81e fois que vous répondez aux mêmes questions et où nous, on a l'impression de poser des questions très malines.
J'essaie de faire semblant que c'est la première fois que j'improvise.
qu'est-ce qui se dit dans ces débats?
Oui, exactement ce qu'on se dit ce soir. Oui, effectivement, vous avez raison, c'est un débat comme je le fais tous les soirs. Ça ressemble à ça, en fait. Oui. Mais c'est normal, ce sont les questions qu'on aborde. Alors évidemment, dans les débats que je fais tous les soirs, on ne parle que de la domination masculine. Là, on parle des autres films aussi. Mais c'est ce type de questions qui sont abordées, oui. En général.
Et la nécessité de tourner avec le film, c'est quoi? C'est vous ou c'est une contrainte pour que le film existe parce que sans votre présence, sans la présence du réalisateur, les salles sont...
Bah, disons que c'est un film documentaire qui sort en salle, c'est sûr qu'il faut l'accompagner. Quand vous faites une fiction et que vous avez une star à l'affiche, vous l'envoyez faire le guignol sur les plateaux de télévision et puis ça fera le reste. Là, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est plus un travail de fond. Et en plus, je vous parlais d'obsession. C'est sûr que si on fait un film comme ça, c'est qu'on y croit, c'est qu'on a envie de défendre des idées. Donc c'est la frontière entre le travail politique, le travail de cinéaste. La frontière est parfois un peu floue. Donc mes films, je les accompagne généralement comme ça. Alors c'est vrai qu'après un certain temps, il y a une lassitude qui s'installe parce qu'on répète toujours un peu la même chose, qu'on est toujours un peu dans le public est frais par rapport au débat, mais vous êtes toujours dans quasiment le même débat tous les jours. Mais c'est important d'accompagner les films, c'est important. Mais après, il faut que les films puissent vivre seuls aussi, ne serait-ce que pour avoir le temps de faire le suivant.
Et sur la question industrielle, j'allais dire, par rapport au cinéma, on a cru voir sur votre site que le film était coproduit, en tout cas diffusé, par UGC.
Coproduit et diffusé, oui.
Coproduit et distribué. Oui. Comment vous voyez, vous, votre travail dans ce schéma économique? Est-ce qu'il y a des compromis? Est-ce qu'on peut être un Serge Halimi et éditer son bouquin chez Fayard et critiquer le capitalisme? Est-ce qu'on peut faire des films sur la domination tout en étant produit, aidé par des systèmes dominants?
Ah, mais c'est sûr que si vous voulez faire du cinéma, vous êtes dans un système industriel. Et quand je dis industriel, c'est une petite ou une grande industrie. En l'occurrence, une grande industrie. Mes autres films étaient sur des beaucoup plus petites industries. Mais vous fonctionnez avec des chaînes de télévision, avec... oui, bien sûr, avec des producteurs, des coproducteurs. Moi, en général, mes films, il y a 12 ou 15 partenaires. Ce que je peux vous dire par rapport à UGC, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est que je n'ai jamais eu aussi peu de pression. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent, quand on va voir des chargés de programme d'une chaîne de télévision, Arte, j'ai plus souvent travaillé avec Arte, avec un projet, il y a une première écriture, et puis une réécriture, et puis ça se discute, ça se travaille, et d'ailleurs parfois de manière très intéressante, avec des gens très intéressants. Mais je veux dire, il y a une implication du diffuseur, qui est coproducteur, dans l'écriture, qui est très impliqué donc, dans l'écriture, dans le montage, etc. Avec UGC, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Le film était totalement écrit. Ils l'ont pris tel quel, sans en discuter la moindre ligne. Et puis, bien sûr, on a fait des projections du film quasiment monté, avec eux et avec les autres partenaires. Mais moi, je considère que ce sont souvent des moments qui sont très intéressants, parce que ce sont des gens qui n'ont pas vu la matière, qui connaissent le projet, mais qui n'ont pas vu la matière, donc qui viennent avec un œil neuf. Et c'est très enrichissant, parce que souvent, les gens vous disent « Mais là, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se dit, on ne comprend pas l'enjeu, pourquoi c'est là. » Et vous donnent... Ce sont vos premiers spectateurs. Mais dans tous mes films, j'ai toujours travaillé avec... J'ai toujours eu beaucoup de chance. J'ai toujours travaillé avec des gens qui avaient un très, très grand respect, donc qui avaient envie qu'on travaille main dans la main. Je n'ai jamais eu de clash avec... Même des chaînes de télévision. Alors que je sais que ça peut exister.
Imaginez qu'on vous prenne vous aujourd'hui. On vous amène en Chine, on vous jette comme ça dans le village. Allez, c'est là chez vous. D'accord, oui, mais vous représentez quoi pour les Chinois qui passent dehors? Ou les voisins chinois qui se disent, tiens, il y a un type venu d'ailleurs qui est en dessous. Mais qu'est-ce que je suis pour lui? Là, on se pose la question. Et puis, il n'y a personne qui vous connaît dans le village. Et quand on n'est pas connu dans le village, on a l'impression d'avoir perdu son identité. On n'est plus le cadre que les autres connaissaient comme cadre, on n'est plus le psy que les autres connaissaient comme psy, on n'est pas le père d'un tel que les autres connaissaient comme père d'un tel. C'est fini, il n'y a personne qui vous connaît, même pas le nom. D'ailleurs, qui a besoin de savoir comment je m'appelle? Pour me désigner, on dira désormais, t'as vu les blacks qui passent dehors? Eh bien là, on se pose des questions. Alors là, découragé, je téléphone au Congo pour parler avec ma femme. Et là, c'est mon fils qui me dit, papa, j'ai entendu dire que tu es tout seul là-bas. Mais comment peux-tu dire que tu es tout seul? Est-ce qu'il n'y a pas des gens dans le village où tu habites? La tilde dans ma tête, mais il y a des gens dans le village. Ils ne sont pas venus vers moi. Moi, je vais alors aller vers eux. C'est là que j'ai fait une expérience qui m'a rendu célèbre en Belgique, d'aller sonner chez des gens. Bonjour, Pichi Manda, je viens du Congo, j'habite chez vous. Je me suis présenté devant une première maison de cette rue-là. J'ai sonné, un homme a ouvert. Il m'a regardé, je l'ai regardé aussi. J'ai fait comme on fait dans mon pays. Bonjour, monsieur. Et lui, il a fait comme vous faites ici. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez? Et je lui ai dit, Pichi Manda du Congo, nouvel habitant du village. Je viens me présenter. Il me dit, pardon? J'ai dit, je m'appelle Pichi Manda, nouvel habitant du village. Je viens me présenter. Il me dit, vous avez quelque chose à vendre, monsieur? Je dis, non. Il me dit, vous avez quelque chose? Vous voulez quelque chose? Je dis, non. Mais quoi? Eh bien, on vous dit que je suis là. J'habite le village. Je vois encore sa tête. Comme quelqu'un qui s'est dit, ce sont des fous, j'en avais déjà entendu parler, là j'en ai un maintenant devant moi.
T'es gonflé quand même, hein?
Ah oui. Ah oui. C'est ça qu'on appelle nager à contre-courant. Où tu vas avec le courant, il t'emporte. Où tu fais à contre-courant et tu y arrives. C'est vrai que si c'était à recommencer, je ne peux pas garantir que je le referais. Mais la situation dans laquelle je me trouvais en ce moment-là, il fallait bien que je fasse, ça fait partie des instincts de survie quelque part.
Alors voilà, on a beaucoup parlé de la domination masculine avec Patrick Jean, mais il y a aussi d'autres films, on en a un petit peu évoqué, on a évoqué La raison du plus fort, avec un film qui est, personnellement, je trouve vraiment très dur, on en ressort assommé. Après, il y a D'un mur à l'autre, et D'un mur à l'autre, c'est une déambulation, enfin une sorte de road movie, on part de Berlin, puis on va se demander qu'est-ce qu'il y a comme mur aujourd'hui, et les murs sont peut-être plus matériels, mais en fait ils sont peut-être partout, il y a peut-être des barrières, les barrières elles sont entre les gens, et par exemple cette rencontre que vous faites avec Pichi Banda, donc en Belgique, quoi, dans un endroit en Belgique, c'est vraiment, et l'extrait qu'on vient d'entendre, il remet en scène une rencontre, justement cette rencontre, et j'allais dire ces murs qu'on a quand on est face à des gens qui sont différents, finalement, c'est peut-être sur cette différence. Et vous, vous montrez par les rencontres que vous faites lors de cette déambulation, justement, que comment on peut faire éclater les murs, c'est dans ces petites rencontres, dans ces moments de vie où on exprime ce qu'on a pu entendre là. Je ne sais pas si je résume un peu l'idée du film, mais c'est un peu comme ça qu'on peut percevoir.
J'avais envie de raconter plusieurs choses dans ce film. D'abord, ce voyage, ce road movie, effectivement, entre les restes du mur de Berlin et jusqu'à la clôture de Ceuta, donc entre l'Espagne et le Maroc, qui est ce nouveau mur de l'Europe. Je voulais parler des frontières, puisqu'on voit par exemple à Marseille de nouveaux types de frontières qui se bâtissent, avec des murs qu'on construit entre des quartiers pauvres et des quartiers riches. J'avais envie de faire un film de rencontre, parce que je sortais de La raison du plus fort, qui... Vous disiez que ça vous avait un peu assommé, moi aussi, ça m'a assommé de le faire. C'est un film assez brutal à regarder, alors à faire, vous l'imaginez. Et j'avais envie d'un film de rencontre un peu plus simple, plus sympathique, on va dire. Et j'avais envie aussi de marquer d'une certaine manière une victoire dont on parle peu. C'est-à-dire que quand on parle des rapports entre personnes issues de différentes nationalités, différents coins du monde qui se retrouvent chez nous, on évoque souvent, et on a raison de le faire, les problèmes des sans-papiers, les problèmes des sans-papiers qui sont en grève à quelques centaines de mètres d'ici, etc. Donc toujours les problématiques. Mais d'une certaine manière, il y a une victoire, une grande victoire politique qu'on a eue, je veux dire, pour le dire en un mot, à gauche. C'est la victoire du métissage de nos sociétés. C'est-à-dire que nos sociétés, qui étaient beaucoup moins métissées, en 50 ans, elles se sont totalement métissées. Alors évidemment, beaucoup plus dans Paris que dans les campagnes, mais la société, par exemple la société française, que certains rêvent encore dans une identité nationale blanche et chrétienne, c'est fini. c'est foutu et c'est irréversible. S'il y a une chose qui est bien irréversible, c'est celle-là. Et d'une certaine manière, c'est une victoire sur le plan historique. Quand on parlera de notre époque, dans 3 siècles, on parlera de ça, j'en suis certain, de la fin des sociétés complètement fermées sur elles-mêmes, en tout cas en Europe, mais qui se mélangent, qui se métissent. Et en même temps, j'avais envie de montrer à côté de quoi on passait. Parce que c'est vrai que dans toutes ces rencontres, chaque fois, je suis tombé sur des gens qui avaient quelque chose de particulier parce qu'ils venaient d'ailleurs ou parce qu'ils avaient vécu un certain nombre de choses. Et les sociétés, souvent, elles évoluent par les marges, sont les marges qui les nourrissent. Et là, je faisais des rencontres avec Pichi Banda, par exemple, qui est un type qui vient avec une culture africaine, qui a énormément à nous apprendre, autant sans doute que nous avons à lui apprendre. Mais cet échange-là, il était refusé d'une certaine manière, parce qu'on est toujours dans des cultures dominantes, pour ne pas dire des cultures impériales, nous sommes dans des pays qui ont dominé le monde, et on n'imagine pas une seule seconde que les gens que nous avons dominés, en fait, ils possèdent beaucoup de choses, beaucoup de richesses qu'ils pourraient nous offrir actuellement. On n'imagine même pas cette possibilité-là. Et dans ces rencontres, moi, c'est ce que je trouvais, et notamment, évidemment, c'est assez éclatant avec Pichi Banda, qui lui parle de ses rapports humains et qui me racontait un jour, par exemple, qu'il était tout seul dans ce village parce qu'il est arrivé comme réfugié parce que sa tête était mise à prix au Congo Kinshasa. Et donc, il est arrivé dans un petit village tout triste en Belgique et puis il était tout seul dans son coin, personne ne lui parlait. Et puis un jour, il commençait à déprimer, évidemment. Et puis un jour, il a parlé à un de ses enfants et ses enfants lui ont dit « Mais papa, je comprends pas, il paraît que tu es tout seul, que tu es tout triste, mais tu es au milieu de la forêt, il n'y a pas de gens. » Parce qu'évidemment, pour ces enfants africains, être tout seul, ça voulait dire qu'il n'y avait personne autour. C'était inimaginable d'être tout seul dans un village où il y avait des habitants. Et c'est là que Pichi Banda a eu cette idée géniale, évidemment, qu'il raconte dans ce qui est devenu un spectacle. C'est qu'il s'est dit « Mais après tout, mais mon fils a raison. Il y a des gens, mais ils ne viennent pas à moi. Dans la culture ici, on ne vient pas à l'étranger. Ben, c'est moi qui vais aller vers eux. » Et il a sonné à toutes les... Alors, je connais le village, je peux vous dire qu'il faut une sacrée dose de courage pour le faire. Il est allé sonner à toutes les maisons du village en disant « Bonjour, je suis là. Je m'appelle Pichi Banda, je suis un voisin. » Et puis, comme il le raconte, on vient d'entendre, les gens disent « Mais qu'est-ce que... si quelqu'un a fait ça, ça veut dire qu'il veut quelque chose, il a un truc à vendre. » Et lui, il avait rien à vendre, il voulait juste marquer son passage. Et du coup, il est devenu la coqueluche du village et tout le monde a voulu être son ami parce qu'on s'est rendu compte, là, les gens se sont rendus compte des bisous qu'il avait une personnalité extraordinaire. Et aujourd'hui, il est même devenu assez connu en Belgique.
Oui, non, mais c'était aussi dans cette trajectoire. Enfin, justement, cette rencontre, elle est symptomatique parce que du coup, ça vous emmène dans d'autres rencontres finalement, en rebondissant et en traversant donc l'Europe. Et je voulais revenir justement sur les différents les murs. Vous parliez donc et on peut les briser donc avec humour, mais aussi avec vous, ce que vous faites et dans votre dans votre manière de faire le cinéma également. Et justement, moi, j'avais l'impression que voilà, le fil directeur, même entre le fait de passer la trajectoire que vous faites dans ce film et de passer d'éléments finalement assez hétéroclites, de rencontres différentes, de singularités, mais que vous liez comme ça, finalement, est-ce que, même si on revient à Domination masculine, où vous êtes avec des... On a aussi des sujets très, très différents, parce qu'on peut passer des jouets, de la visite avec donc, les jouets, on va passer avec le speed dating, on va aussi voir les violences faites aux femmes, où là, on a des moments beaucoup plus dramatiques, même qui tirent vers l'émotion, et tout ça, vous le liez, et notamment vous, avec votre touche, j'allais dire, artistique, puisque tout se synthétise, ces moments hétéroclites, soit donc d'un mur à l'autre par le système, soit du train ou de cette narration et d'un pays à l'autre, ou soit par exemple dans la domination masculine par ces images que vous collectez et finalement que vous collectez sur un grand mur je ne sais pas si vous pouvez en décrire un peu plus, mais qui me semble un peu votre forme artistique, parce que vous parlez du fond, mais aussi que vous cherchez une forme pour rendre compte de ça, et j'ai l'impression qu'on le comprend petit à petit même dans la domination masculine, que voilà, c'est des petites touches et finalement ça forme un tout. Et on s'approche un peu toujours de la même idée, mais on s'en approche de plus en plus.
Ben oui, parce que la grosse difficulté dans tout ça, c'est qu'on parle de structure. Et comment parler d'une structure de manière linéaire? Parce que le cinéma, il est linéaire, c'est-à-dire que ce sont des images qui sont mises bout à bout, mais c'est toujours la première image au début, la dernière image à la fin, les séquences sont toujours dans le même ordre, tous les spectateurs voient le même film dans le même ordre. Or, le monde, le réel, il n'est pas linéaire. Le réel, c'est une structure gigantesque. Et si on ne parle que de la domination masculine, dans ces structures, il y a l'éducation par les jouets, par les livres d'enfants, il y a le rapport au corps, la marchandisation du corps, l'inégalité salariale, la représentation des femmes en politique, la question des tâches ménagères, la question du viol, de la prostitution, évidemment de la violence conjugale. Et tout ça se tisse dans une énorme structure qu'un sociologue analyserait sous forme d'un essai, et il essaierait de décrire comment fonctionne cette toile, et comme le disait tout à l'heure encore le garçon en prison, les causes qui ont des conséquences, les conséquences qui ont des causes. Mais dans un fil linéaire d'un film, c'est très très compliqué. Et donc, pour le faire, il faut faire confiance à l'intelligence du spectateur. Et donc, c'est vrai que je mets côte à côte des séquences qui tournent autour d'une thématique, mais qui sont tous des points de cette structure, et que le spectateur devra, avec sa pensée, avec son intelligence, relier ou pas. Parce qu'évidemment, j'ai rencontré beaucoup de journalistes qui eux, ont refusé, parce qu'évidemment, c'est très commode. Quand on ne veut pas, quand on n'est pas d'accord avec le point de vue politique, on dit qu'il n'y a pas de lien. On dit que ce sont tous des éléments qui sont comme ça les uns côté des autres, que ça ne fait pas sens et que ça ne veut rien dire. Donc il y a beaucoup de journalistes, hommes notamment, mais pas seulement, qui me l'ont dit.
Alors justement, on peut dire deux mots sur la forme. Il n'y a pas de commentaire. Enfin, dans La raison du plus fort, il y en a quelques-uns.
C'est pas vraiment un commentaire.
Ce qu'un...
C'est plus une sorte de voix intérieure. Voilà. Ouais.
Mais alors là, pour le coup, on tend vers la disparition de ça. On sent que l'exercice est... Enfin, il faut créer du lien sans justement intervenir des commentaires. C'est quoi cet exercice ?
C'est un film de cinéma. Contrairement à la télévision où les gens peuvent zapper en permanence, au cinéma, le spectateur est captif. Donc à partir du moment où il est dans la salle et qu'il est assis dans son siège, on peut estimer qu'il va rester jusqu'au bout. Et donc, s'il n'a pas l'explication tout de suite, il pourra l'avoir plus tard. Et donc c'est au spectateur, effectivement, à créer du lien, à faire fonctionner son intelligence. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le documentaire, on est dans un genre cinématographique qui a tellement été détruit par la télévision qu'aujourd'hui, beaucoup de spectateurs n'ont plus cette capacité à lire les images documentaires. Et donc, parfois, je reçois des questions dans les débats où je me rends compte que les gens n'ont pas du tout compris quelque chose qui est très, très, très lisible à l'image, parce qu'il n'y a pas une voix off. Aujourd'hui, les télévisions demandent aux cinéastes de mettre des voix off, mais parfois, on peut vous dire très clairement de mettre une voix off qui va dire ce que l'on voit à l'image. C'est-à-dire, si vous appelez sur en rentrant... Absolument. On voit Pierre qui traverse la rue, on le voit traverser la rue, et la voix off dit « Pierre traverse la rue ». Puis il rentre chez lui, Pierre rentre chez lui. La voix off dit ce qu'on voit à l'image. Donc les gens sont tellement habitués à être conduits comme ça dans un truc où ils ne doivent plus réfléchir, où ils peuvent dormir un peu, puis se réveiller, puis voir la suite, c'est pas grave, qu'effectivement, quand on essaie de faire bon, bien ou mal, mais qu'on essaie de faire quelque chose qui soit un peu du cinéma, il y a des gens qui ne vous suivent pas, c'est sûr.
Alors, je ne sais pas si vous allez le prendre bien. Moi, ça m'a assez fait penser la domination masculine au film We Feed the World, où on voit ces images qui décrivent... c'est sur, en gros, ce qu'est l'alimentation aujourd'hui, le système alimentaire dans le monde. C'est un documentaire très ambitieux. Et on voit une série d'images sur ce qu'est l'industrie alimentaire dans le monde qui s'accolent les unes aux autres.
Ah, c'est le film qui, en français, s'appelait Notre pain quotidien ?
Notre pain quotidien,
j'ai vu ce
voilà.
Film, c'est un très beau film. Super
référence,
merci.
Et il n'y a aucun commentaire. Ce ne sont que des plans-séquences où la caméra ne bouge pas, et on sort avec une impression très ambivalente de ce que c'est que nourrir la planète, et ça m'a très vite évoqué ça, votre film, sur l'ambivalence aussi de comment on sort avec qu'est-ce qu'on pense de ces rapports hommes-femmes.
On peut se mettre à réfléchir. C'est ça, moi j'ai l'ambition de ne pas faire du divertissement. Si vous avez vu mes films, vous avez vu qu'ils ne sont pas très divertissants, d'ailleurs. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on met sous le vocable documentaire, on met à peu près tout. On met des mauvais reportages, on met des bons reportages, on met des mauvais documentaires, des bons... Enfin, on met un peu de tout. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le spectateur est complètement perdu. Et quand on lui parle de documentaire, il pense très souvent aux reportages télévisés.
Et vous, c'est un mot là apparemment auquel vous semblez attaché. Comment vous l'êtes approprié ? Comment est-ce que vous-même définiriez ?
Ah oui, parce que le cinéma documentaire, ça n'a rien à voir avec le reportage. Hein. C'est ni supérieur ni inférieur. C'est tout à fait autre chose. Le reportage, c'est le travail du journaliste. Le documentaire, c'est le travail d'un cinéaste. Donc du côté du cinéaste, il y a une attention à la forme qui sera marquée. Le journaliste ne s'intéresse pas à la forme. Quand on voit un journal télévisé, on s'intéresse pas. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de forme. C'est pas le propos. Et puis d'autre part, ce qui fait la grande différence, évidemment, moi je suis très attaché à la définition que Jean Vigo donnait du cinéma documentaire, c'est le point de vue documenté. Alors documenté, ça, on espère que les journalistes le sont, bien que très souvent on peut en douter. Mais donc ça veut dire que quand on travaille sur un sujet, on se documente. C'est un long travail de réflexion, de lecture, de documentation. Et à partir duquel, le journaliste va tenter de nous raconter le réel sous forme d'une sorte de vérité neutre, dans laquelle il n'aurait pas de parti pris, il n'aurait pas de regard particulier, alors que le documentariste, au contraire, va assumer un regard singulier et subjectif. Et c'est pour ça que le documentariste va être beaucoup plus proche du sociologue, parce que la première question que le sociologue va faire quand il commence à travailler sur un sujet, sur un terrain, c'est de dire « d'où est-ce que je regarde ?» Alors c'est sûr qu'on ne regarde pas le réel de la même manière si on est un homme ou une femme, si on était socialisé comme un homme ou une femme, si on était socialisé comme quelqu'un qui appartient à la grande bourgeoisie ou à une classe populaire, on ne va pas regarder les rapports sociaux de la même manière. Eh bien, le documentariste fait la même chose. Et donc regarde à travers, moi c'est ma manière de faire, de travailler à partir d'un point de vue subjectif. Donc mes films sont totalement subjectifs, je ne donne aucune vérité, je ne donne que mon regard sur le monde, mais un regard qui est documenté, qui n'est pas un regard comme ça, a priori. Alors que le journaliste va nous faire croire que lui, évidemment, parfois bien, parfois mal, que ce sera une absence de regard et une sorte de vérité immanente.
Mais finalement, à vous entendre, on voit quelle ferveur vous avez à défendre le documentaire. Au début d'émission, vous disiez « Oui, je suis venue au documentaire un peu par hasard, je ne voulais pas trop aller là-dedans. » Et à vous entendre, finalement, on se dit quand même...
C'est vrai.
Simplement, on est très inquiet pour vous parce qu'on a l'impression quand même que parfois vous essayez justement de faire des films qui débordent un petit peu sur d'autres thématiques, sur le voyage. On parlait tout à l'heure d'un road movie à propos d'un mur l'autre. Et puis régulièrement, on revient quand même aux questions économiques. Et vous parlez des murs, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de parler des murs entre les riches et les pauvres. J'ai l'impression que vous êtes quand même anticapitaliste.
Ah, grande question. Ça, c'est une grande question. Je ne pourrais pas vous répondre en trois phrases.
Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu
merci
ce
à
soir.
Vous.
Et puis, on vous encourage donc tous à aller voir les films. Donc, La domination masculine, encore en salle actuellement. Et puis, tous les autres
Paris,
en DVD.
À Paris, il est au Brady. Et j'ai oublié la deuxième salle, à l'Entrepôt. Voilà.
Allez, quand on est à Dumont, on fait de l'ouvrage. C'était Les Oreilles Loin du Front, une émission qui diabolise le phallus. Avec ce soir autour des micros, autour des boutons, ceux qui n'ont pas vocation à faire du divertissement. Et le premier d'entre eux, blanc, diplômé, parisien, hétérosexuel, c'était le mâle dominant de la soirée, Raphaël. Il y avait aussi, pour refuser de faire la vaisselle, Sophie, pour transformer son aspirateur en fusil d'assaut, Juliette. Et puis, pour hausser la voix aussi face au patriarcat et au patronat, il y avait Aude, le tout a eu lieu sous l'œil sévère mais juste de Elisa. Il y avait aussi Alex, il y aura bientôt Claudie et Claudia puisque Antanane arrive. Ciao.